France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, on a un apéro de feu qui nous attend avec une actrice qui aujourd'hui est chanteuse punk radicale. C'est une égérie Chanel syndiquée CGT qui a fait du plongeon acrobatique. Alors ça, vous auriez pas deviné. Révélée par Chabrol, présidente de la République dans Baron Noir. Ça y est, vous avez trouvé, c'est Anna Mouglalis. Elle est arrivée en avance. Bonjour Anna Mouglalis.
Bonjour,
c'est moi qui vous ai fait attendre.
Ouais, il n'y a pas de problème.
Je vous embrasse.
Ouais.
Bienvenue dans mon bistrot, Anna.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous faites le samedi soir, généralement?
J'ai la fièvre.
Ah ouais?
Ah ouais.
Ah carrément. Ça va être très très chaud, cette émission. Venez, on va s'installer.
Charlie Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Anna Mouglalis, j'ai donc devant moi une égérie Chanel syndiquée à la CGT.
Eh ouais.
C'est un peu court comme résumé, mais je trouve que ça vous ressemble, c'est vrai ?
Ouais. C'est hyper important de se syndiquer.
Ah.
Non, et surtout, enfin, dans mon métier, en fait, je crois une des figures les plus connues qui soit syndiquée, c'est Jean-Paul Belmondo. Le syndicat des artistes interprètes continue d'ailleurs souvent à le mettre sur des affiches. En fait, il n'y a pas eu de culture du syndicat chez les acteurs. Contrairement aux États-Unis, où on sait à quel point, enfin voilà, mm-hmm. les syndicats sont hyper puissants. Il n'y a même pas la possibilité, certaines fois, de faire des films si on n'est pas syndiqué.
Ouais.
Ouais.
Okay.
Au bout, je crois, en tant qu'étrangère, au bout du deuxième ou troisième film qu'on fait là-bas, même des petits films indépendants, on est obligé de se syndiquer. Mmh. Ouais, moi, cet engagement avec la CGT, bah, ça a été un cadeau. Déjà, j'ai découvert que j'avais plein de camarades.
Oui.
Non, mais c'est vrai. Non, et j'ai trouvé aussi que c'était vraiment la seule voix audible dans la lutte contre l'extrême droite. Lutte concrète.
Mmh.
Bon, voilà. Ah, et le fait que Sophie Binet soit à la tête de la CGT a aussi pour moi clarifié plein de choses. Donc ça a rendu aussi ça possible.
Ah oui, elle a emmené des femmes peut-être à se syndiquer CGT.
Non, et puis face à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre la domination, elle est d'une clarté, d'une pertinence. Mm-hmm. Moi, je suis assez fan même de Sophie Binet.
Ah,
si je suis fan de quelqu'un, c'est peut-être de Sophie Binet.
Okay. Ouais. On va revenir au syndicalisme un petit peu plus tard dans cette conversation. Parce que là, j'ai l'image de vous avec un bob CGT sur la tête et Karl Lagerfeld qui tombe sur vous dans cette tenue.
Ouais, je m'étais retrouvée avec Karl à une émission de télé où on lui soumettait des iconographies, genre on rhabillait les hommes politiques. Je pense que, enfin, il n'y a pas de contradiction.
Non.
Pas de contradiction. C'est pas lui qui a fait la fameuse casquette à strass, mais il aurait pu.
C'est vrai que la CGT a une casquette à strass extraordinaire et un décapsuleur qui, quand on décapsule, joue l'international. Vous l'avez ?
Bah forcément.
Oh là 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 là, mais complètement syndiqué, Anna Mouglalis, c'est fou. Vous connaissez toutes les bases. C'est génial. On va se donner rendez-vous en manif.
Bah ouais.
Quand les projecteurs de cinéma s'éteignent, vous êtes aussi une citoyenne, intellectuelle, engagée, bonne élève, avec un goût prononcé pour la transgression. Et on va aussi le voir dans votre nouveau projet. Il vous vient d'où ce goût de la transgression ?
Parce que
mon papa médecin, vous avez l'air avoir été élevé dans un milieu où il n'y a pas forcément de transgression, et puis vous avez eu envie.
Oui, en même temps, j'ai été élevé comme plein de filles de ma génération, puis je ne sais pas si ça bouge tant que ça. En tant que fille, il y avait énormément de choses qui ne m'étaient pas permises. J'ai un père grec.
Ah. Il y a un peu de machisme méditerranéen quand
oui,
on dit grec.
Bah oui, mais bon, c'est pas. Il y a du machisme de bon français.
Il y a du machisme germain, scandinave.
Oui, voilà. Voilà, c'est quelque chose qui est assez partagé.
Oui, oui. Vous parlez grec ?
Non, je baragouine.
Mm-hmm. La transgression, vous la pratiquez à travers un féminisme radical. Je pense que les plus prudes diraient même ultra-radical. On va évoquer Monique Wittig, qui inspire le projet Draga, de groupe punk auquel vous participez et vous chantez. En commençant cette émission, je me suis dit, comment inciter les hommes à nous écouter jusqu'au bout ? Là, quel message vous pourriez leur adresser comme propos liminaire pour l'émission ?
Alors, bon, déjà, remettre les choses à l'endroit. Le féminisme, c'est une révolution. Mais c'est une révolution qui cherche à mettre en place l'égalité. Et ce que je dirais aux hommes, c'est qu'il s'agit de notre responsabilité collective à tous et toutes. Mmh. Il y a quand même très très clairement une guerre mondiale menée contre les femmes. Et c'est pas acceptable.
Mmh. Une guerre mondiale, ouais.
Bah, on tue des femmes juste parce qu'elles sont femmes. Mmh. Il suffit qu'il y ait une femme violée pour que toutes les autres aient peur dans la rue. Mmh. Enfin, ça marche très très bien, ce système.
Mmh. Ouais.
Et c'est intolérable.
Vous êtes devenue féministe radicale pendant votre grossesse, ai-je lu ?
Non, mettons que peut-être au berceau.
Non, parce que je me suis dit, il y a des femmes enceintes qui ont envie de fraises, et vous avez eu envie de détruire le patriarcat.
Ouais, c'est ça. Non, mais parce que je me suis... Enfin voilà, j'ai appris que j'attendais une petite fille. J'ai vu immédiatement... Voilà, à partir du moment où on connaît le sexe de l'enfant, il y a tout de suite des projections d'une binarité bien rigide. Non, et je me suis rendu compte que tous les héros qui peuplaient mon imaginaire, toute la littérature que j'avais lue face à l'océan de chefs-d'œuvre, je sais pas moi, Victor Hugo, Kafka, enfin que des hommes. Et j'ai eu la nécessité comme ça de me construire un imaginaire au féminin.
Donc si vous aviez attendu un garçon, peut-être que ce cheminement aurait été plus lent.
Je sais pas.
En tout cas, il y a eu un déclic, le fait d'attendre une fille.
Voilà, ouais. Et puis je me suis rendu compte, quand j'étais petite, quand je voyais des westerns, j'avais envie d'être indienne. Tous les films sur l'apartheid ou l'esclavage, je voulais être noire. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant aujourd'hui que d'être une femme.
Mmh. Ah, vous étiez du côté des dominés.
Bah,
c'est en eux que vous vous projetiez, ou vous identifiez.
Ouais.
Ok. Pourtant, à 24 ans, votre modèle d'actrice au cinéma, c'est Marlon Brando.
Ouais.
Alors là, expliquez-moi.
Non, il y avait un génie comme ça, une présence, mais je sais pas, j'ai dû dire ça il y a très 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 longtemps.
Oui, vous aviez 24 ans, les débuts,
ouais.
Après...
voilà, c'est un immense
acteur. Merci pour le chocolat de Chabrol.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça, mais... non, alors, Bette Davis.
Ok.
On remplace Brando par Bette Davis.
On va plutôt faire ça. L'un de vos grands-pères pratiquait des avortements clandestins. Ouais.
Dans la famille de ma mère, il y avait donc des infirmiers, des aides-soignants. Bah oui, ça s'est pratiqué partout. Et à partir du moment où il y avait accès à un minimum de matériel médical, voilà, les gens étaient solidaires.
Mmh. Mmh. Ah oui. Un petit peu de matériel syndical. Médical.
Ouais.
Je vous vois encore avec le bob sur la tête.
Attention, attention.
Mais oui, mais bien sûr. Mais ça se savait dans la famille, c'était caché, c'était valorisé, c'était gênant. Ça se vivait comment, un grand-père?
Non, moi, je l'ai appris il y a très peu de temps.
Ah, donc c'était caché.
Ouais, bah bien sûr.
Comme clandestin, c'était... ouais, ok. Et aujourd'hui, c'est une forme de fierté?
Bien sûr.
Familiale?
Bien sûr. Mm-hmm. Il y avait une évidence... au fait de pouvoir disposer de son propre corps. Oui, moi, je trouve ça admirable. Après, c'est avec toute l'angoisse et le danger que ça représente. Ça, c'est pas non plus quelque chose de réglé. Enfin, il y a eu la constitutionnalisation de la liberté d'avorter. Pour autant, il y a énormément de centres d'avortement qui ferment. C'est très compliqué sur le territoire, en fait. Si on n'est pas dans une grande ville, c'est vraiment compliqué.
Ouais, effectivement. Anna Mouglalis, vous formez aujourd'hui un groupe de musique qui s'appelle Draga, 5 femmes. Avec vous, il y a Lucie Antunes, il y a PR2B, Théodora Delillet et Narumi Hérisson. Et vous chantez des textes et la pensée de Monique Wittig, notamment, enfin quasiment exclusivement, à partir d'un long poème incantatoire qui s'appelle « Les guerrières ». Alors ça s'écrit avec « guérillière ».
Oui, c'est ça, c'est un néologisme. C'est au cœur de la langue de Monique Wittig. Elle revendique la nécessité d'un nouveau langage, puisque le langage transmis, enfin on parlait tout à l'heure de littérature, mais le langage qu'on nous apprend est complètement empreint de la domination. Donc il faut de nouveaux mots pour réussir à se sortir de l'état d'oppression. Et guérilla, c'est un néologisme, donc c'est des femmes en guérilla.
Ça, l'Académie française va adorer suivre cette émission. Et d'abord, avant de parler de ce projet musical que vous portez sur scène aussi, expliquez-nous qui est Monique Wittig.
Alors, Monique Wittig, pourtant, elle a commencé... Le premier livre qu'elle a écrit, L'Opoponax, a tout de suite eu un prix. Marguerite Duras a célébré justement ce langage déjà complètement nouveau. Ensuite, Monique Wittig, moi, je l'ai connue parce qu'elle a fait partie des créatrices du MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Et elle a fait partie des quelques femmes qui sont allées déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, mais pour la femme du soldat inconnu, encore plus inconnu. C'est un immense écrivain, déjà, avec une poésie, une énergie à la fois politique et poétique, qui est... je sais pas, c'est cadeau de vivre avec ses textes.
Elle voit aussi... Il y a aussi une radicalité par le fait qu'elle était lesbienne.
Oui.
Et qu'à l'époque où elle produit sa pensée, ses textes, etc., elle est difficilement audible dans la société, elle est même rejetée, on peut dire.
Et rejetée aussi par les féministes. Il y a une scission au sein du MLF.
Ah oui.
Et Monique Wittig se rapproche elle fonde les Gouine Rouge et elle se rapproche en fait du front de libération homosexuelle. Mais avec là aussi des trahisons. Puisque c'était surtout des hommes et éventuellement qui n'en avaient pas fini avec la misogynie. Donc elle est partie ensuite aux États-Unis où elle a à la fois enseigné et puis continué à créer. Elle a écrit un livre avec sa compagne Sanzei qui s'appelle Brouillon pour un dictionnaire des amantes. Formidable. Et oui, effectivement, cette radicalité féministe est indissociable de son lesbianisme, puisqu'elle exprime le fait que si, comme le disait Beauvoir, on ne naît pas femme, mais on le devient, les lesbiennes ne sont pas des femmes, puisque les femmes ne sont que la production, en fait, des hommes. On est une femme par rapport aux hommes. Et à partir du moment où on est lesbienne et où on n'est pas disponible pour ces projections, cette domination, cette oppression, qu'on ne consent pas à la malédiction hétérosexuelle, eh bien, on ne peut plus être défini comme femme. On échappe.
Ça vous a fait un choc esthétique quand vous l'avez découvert?
Idéologique. Dans Les Guerrières, elle invente un nouvel universel. Qui est le féminin pluriel. Et se retrouver au cœur d'un livre où l'universel est le féminin pluriel, c'est assez magique.
Mais ça veut dire quoi? Comment est-ce que ça peut être universel, le féminin pluriel, s'il n'y a pas de masculin pluriel qui va avec?
C'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on vit en littérature, dans la langue française, avec un masculin singulier qui serait l'universel. Après, on nous arnaque en nous disant « Mais non, c'est neutre. » Mais ça n'a rien de neutre. Et là, on plonge dans un autre monde, un monde désiré, un monde souhaité. En fait, ça ouvre énormément de possibles. Et ça passe par la forme. Enfin, la forme et le fond sont indissociables. Mais c'est une magicienne. Et c'est effectivement une langue qui peut paraître compliquée. Parce qu'elle est, même si ce texte date de 1969, elle est encore nouvelle, cette langue. Mais il faut se laisser faire. Et c'était le partager comme ça avec le groupe Draguin, le rendre accessible, je ne sais pas, en tout cas partager notre enthousiasme, ce que ça produit sur nous. C'est un texte qui éprouve pour le mieux. Moi, ça me bouleverse. On a eu la chance là de faire déjà quelques concerts. Et il y avait des femmes en larmes pendant les concerts. Ça, c'est d'une puissance. Enfin, c'est un texte complètement nécessaire.
Il y a un côté exutoire pour le public dans
vraiment,
la salle.
Vraiment, vraiment.
Parce qu'on entend des mots qui sont prononcés, qu'on prononce très peu dans la...
C'est ça.
Puis dans la rue ou même dans les interviews de radio.
C'est ça.
Titre craché sur le phallus, par exemple.
Ouais.
C'est exutoire, c'est incantatoire, c'est symbolique, on le rappelle.
Oui, exactement.
C'est une violence symbolique.
Exactement. Non, mais c'est... en fait, il y a quelque chose de la sororité dans toute sa puissance qui permet de se tenir, droite ensemble, pas isolé. Et on vit une époque formidable. Mmh. Hein. Non, mais les droits des femmes de toutes les minorités sont attaqués sans cesse. On vit une époque réactionnaire. Moi, je ne pensais pas vivre ça. Mmh. Donc, je pense qu'il faut se donner du courage ensemble et la poésie, pour ça, c'est génial. Mmh.
Et dans le fond, en ce sens, qu'est-ce qui vous différencie des Spice Girls?
Alors, qu'est-ce qui nous différencie des Spice Girls? Peut-être la musique.
Vous êtes bonne camarade, hein, parce que vous réfléchissez vraiment à la question, j'adore.
Ouais. Bah, ça a été quelque chose, des Spice Girls.
Clairement, bien sûr, évidemment. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que Draga, vous dites que ce projet est peut-être le premier projet artistique avec lequel vous êtes autant en phase?
Parce que déjà je ne joue pas un rôle, et c'est un projet qu'on s'est offert à 5. La force du collectif, c'est tout nouveau pour moi.
Et une équipe choisie là?
Ouais, exactement.
Vous vous êtes rencontrés comment?
On s'est rencontrés tout d'abord autour d'un concert de Brigitte Fontaine. Lucie Antunes faisait tous les arrangements des morceaux. Brigitte Fontaine était, elle, venue chanter des morceaux de son dernier album. Et on avait pu proposer d'autres morceaux de la carrière de Brigitte Fontaine. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Lucie Antunes et PR2B.
Et pour autant, Anna Mouglalis, il y a une dizaine d'années, vous disiez que le chant, c'était pas votre truc. Vous l'affirmiez même. Alors, qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, c'est déjà qu'on a décidé que ma façon de parler était en soi un chant. Donc je ne suis pas... ce qui était compliqué pour moi dans le chant, je me sentais complètement à côté de moi-même ou étrangère à moi-même, à partir du moment où on me demandait de me balader dans des mélodies.
Mais ça se passe comment quand vous partez dans les aigus, vous?
C'est compliqué.
Ouais.
C'est compliqué.
Oui, c'est vrai. Vous avez déjà essayé voir dans votre tessiture jusqu'où vous pouviez aller?
Au conservatoire, on m'a fait chanter comme soprano.
Ah, waouh!
J'ai eu un limbago, je ne pouvais plus mettre mes chaussures. C'est une voix complètement étrange. À l'époque, j'avais encore la possibilité d'aller dans ces aigus.
Ouais. Mais c'était une forme de violence, en fait, de vous imposer ça.
De formatage.
Ah ouais. Vous avez senti dans votre corps que ce n'était pas possible, quoi. Ça a impacté votre corps et votre psyché.
Ouais.
Ah waouh.
Premier limbago.
Premier limbago parce qu'on vous demande d'être soprano.
Non, mais parce que...
Et là, vous êtes quoi, basse?
Je sais pas.
On va écouter un extrait donc de l'album Les Guerrières avec ce groupe Draga. On a choisi comme extrait Le Fourneau à trois pieds.
Bien.
Et on vous prévient, ça envoie du bois. Le rapport au fourneau, vous l'avez?
Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont dû commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont dû à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux. Des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont pu commander à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mise au défi, il l'a prise en défaut, il l'a menacée. Il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer. Aucune délation trop opportuniste. Aucun supplice trop brutal. Aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une. et les détruire. Elles alors entonnent le chant célèbre qui commence par « Malgré tous les mots dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à trois pieds. » Elles disent qu'elles sautent comme de jeunes chevaux au bord de leur tasse. En frappant la terre, elles accélèrent leur mouvement. Elles agitent leurs cheveux comme des bacchantes qui aiment à faire bouger leurs tirses. Elles disent « Allons !» d'une main rapide, attachée avec un bandeau vos cheveux qui flottent, et frappez la terre, frappez-la comme une biche. Marquez en même temps le rythme nécessaire à la danse. Célébrez la belliqueuse Minerve, la guerrière, la plus courageuse des déesses. Commencez à danser, avancez d'un pied léger, bougez-en, tenez-vous par la main, et que chacune suive le rythme de la danse. Paraissez en avant avec légèreté. Il faut que le cercle des danseuses fasse sa révolution et qu'elles portent leurs yeux de toutes parts.
Charline Vanunacker, Bistroscopie sur France Inter.
Wouh, Anna Mouglalis, chanteuse punk avec Draga. Et on vous retrouvera d'ailleurs en concert. Vous serez le 3 juillet au Festival du Film de La Rochelle. Vous jouerez à La Sirène, qui est une super salle. Vous jouez au Festival Days Off à Paris le lendemain, 4 juillet. Et puis au Festival de la Cité à Lausanne le lendemain. Puis il y a des dates aussi à Lyon, Bordeaux, Genève. Oh, La Louvière, c'est chez moi.
Ah.
Le 22 novembre.
Ah, il faudra venir.
Si c'est un week-end, je viens, je vais super vérifier. Et à la rentrée, on vous retrouve au théâtre avec Ovidie.
Ouais, Ovidie a écrit un texte qui s'appelle « La chair est triste, hélas ».
Ouais, excellent livre.
Ouais. Ouais, j'avais adoré. Et là, pour la première fois, elle met en scène. Elle a fait l'adaptation et elle me met en scène. C'est un seul en scène. Un texte dans lequel y a beaucoup d'humour et une pertinence comme ça un peu acide. Je suis très heureuse de travailler avec
Et c'est une écriture dingue, ce livre. Hein. Ouais. C'est aussi un côté incantatoire. Ça ne doit pas être évident à interpréter, non ?
J'en ai très envie. Donc
je ne vais pas vous faire flipper, hein, je dis ça, mais...
Non,
il va falloir bosser cet été, quoi.
Encore une fois, je pense que ça risque d'être quelque chose d'extrêmement fédérateur. Ouais. Parce qu'Ovidie écrit, je redis, avec beaucoup d'humour, mais des choses que toutes les femmes vivent. Mmh.
Et vous donnez à entendre à un plus large public les textes et la pensée de Monique Wittig, qui est radicale. Et vous semblez radicale à bien des égards, Anna Mouglalis.
Radicale ou rien.
Ah, mais c'est ça, radicale ou rien, vous.
Tant qu'à faire.
Ouais, oui, bien sûr. Les marques de radicalisation chez vous, ce serait quoi ? Par exemple, le plongeon acrobatique à haut niveau, c'est quand même déjà quelque chose, non ?
Ouais, j'ai fait ça quand j'étais enfant, ouais.
Ah ouais, à quel âge ?
J'ai fait ça, je crois, de mes 6 à mes 11 ans.
Waouh ! Et alors, attendez, comment on apprend ça, le plongeon acrobatique ?
Alors, c'est en piscine, avec un entraîneur. Puis l'entraîneur vient vous casser les pointes de pied, parce qu'on est noté sur les éclaboussures. Quand on entre dans l'eau, il faut en faire le moins possible. Mais j'aimais ça, le saut dans le vide, ouais.
Comme ça.
Bah, c'est du plongeon acrobatique. Oui. L'acrobatie consiste pas à prendre vraiment des risques. En fait, c'est savoir bien tomber. Et il faut avoir un esprit acrobatique pour faire de l'acrobatie.
Et donc, à quel niveau de compétition ?
J'étais enfant, mais c'était des championnats de France.
Hein. Ah ouais ? Et funambule aussi.
Alors ça, j'ai appris, c'était extraordinaire. Depuis, j'ai un fil chez moi. J'ai appris effectivement à faire du funambulisme pour le gala de l'Union des artistes.
Ouais.
Voilà, qui fonctionne, qui sert à trouver de l'argent pour les comédiens, les artistes qui se retrouvent avec des toutes petites retraites. Ça a existé pendant très longtemps, puis ça a disparu. Et puis c'est revenu.
Et vous pratiquez toujours chez vous, mais c'est-à-dire vous avez un fil chez vous, ça veut dire quoi entre le salon et la salle à manger.
Ouais, c'est ça.
Vous arrivez avec les assiettes, c'est prêt. J'arrive sur un fil, comment ça
non, c'est une longueur de câble, ça fait 3 mètres, donc c'est pas énorme et c'est très bas. Mais ça permet quand même d'éprouver cet équilibre et ce déséquilibre.
Ouais.
Je vous invite.
Bah, je veux bien essayer.
Peux vous apprendre.
Ah d'accord, ok. Allons-y. Allez, Bob s'est jeté sur la tête, funambule. Franchement, il reste les bolasses et la roulée et on est bon là, Anna Mouglalis.
Je ne fume pas de roulée.
Je ne fume pas de roulée, pas non. Géry Chanel quand même, à un moment, il faut y a un standing. Mais c'est marrant parce que funambulisme et plongeon acrobatique, je trouve que c'est une belle allégorie de notre époque.
Mm-hmm.
Vous, vous êtes vachement bien adapté en fait.
C'est ça.
En terminale, vous vous rasez la tête.
Mm.
Ça, c'est un acte quand même déjà féministe. Vous aviez conscience de ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
J'en avais un peu assez de la façon dont on pouvait s'adresser à moi dans les transports en commun, par exemple. Donc j'ai rasé ma tête. Je pensais que ça allait être très lisse. Le jour même, on m'a tout de suite appelé petit gars.
Petit gars.
Mais bon, c'est vrai que ça, ça a changé.
Vous êtes déjà 1m90, non?
Non, je ne suis pas 1m90. Je ne suis pas très grande.
Vous êtes grande quand même. Si, si.
C'était oui, une façon de se réapproprier son corps. Ouais. Vraiment. Je me sentais un peu oui, Sally.
Ah, c'est ça. Parce que quand on dit boule à zéro, c'est vraiment. On remet les compteurs, quoi.
Ouais.
On reprend un nouveau départ.
Ouais. Okay. Mais c'était compliqué. J'ai vu mon arrière-grand-père qui m'a demandé de revenir quand j'aurais des cheveux. Non, c'est vrai que ça évoque encore d'autres violences faites aux femmes.
Oui, bien sûr, après la guerre.
Les femmes tondues, ouais.
Oui, on peut comprendre que ça lui rappelle des mauvais souvenirs, c'est sûr. Et en décembre dernier, on a pu voir votre audition devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Oui, là, vous avez évoqué les cas de Gérard Miller, de Jacques Doyon ou de Philippe Garrel. Vous avez livré votre diagnostic de tout ce qui n'allait pas. Avant de pouvoir confier cette parole au pouvoir public, à qui est-ce qu'on pouvait en parler ?
Moi, j'en ai toujours parlé. C'est pour ça que c'était pas non plus, c'était pas difficile de faire cette prise de parole là. C'est des faits qui se sont produits tout au long de ma carrière, mais j'ai toujours dit à des proches. C'est juste qu'on n'entendait pas non plus, on s'en emparait pas. Moi, je célèbre le travail de cette commission parce que cette mise en commun de nos vécus. L'attention que ça a créé, c'est vraiment entré dans le débat public. Je pense que ça bouge un petit peu.
On a regardé avec notre équipe vos premières interventions chez Thierry Ardisson sur le plateau.
Ah, c'était vraiment comme faire son service militaire en patriarcat.
Mais on sent un grand malaise aujourd'hui. C'est-à-dire, même dans les comptes rendus de presse suite à ces émissions, on dit que vous cultivez le mystère et la profondeur, alors que pas du tout. J'ai l'impression que vous êtes sidéré devant la beaufrie de l'interview.
Ouais, exactement.
Ah ouais.
Bah, il faut savoir que c'était aussi des émissions qui duraient, mais je sais pas, ça a duré 5 ou 6 heures. On n'est pas payé pour faire ça, nous. Et c'était du faux direct. Donc dès qu'il voulait, il disait coupez, on rembobine. Disant mais qu'est-ce que vous avez dès qu'on le reprenait dans une forme de dialogue, parce qu'il disait n'importe quoi. Et il coupait, il rembobinait. Mais moi j'avais eu la chance d'être intervenu un jour où il y avait des journalistes qui avaient fait un communiqué sur ces façons de faire aussi.
Ah, ok. On va éviter de faire ça. Coupez !
On rembobine. Prenez votre verre.
Possible,
vous en étiez au moment où vous aviez votre verre dans la main gauche.
Ah ouais, comme un raccord cinéma.
Ouais.
Totalement mis en scène.
Ouais.
Ah ouais, super. Anna Mouglalis, adolescente, vous faites le mur en déboîtant les lames du parquet.
Tout à fait.
Donc,
Alcatraz.
Donnez-moi un tuto, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, bon, déjà, il faut avoir du parquet. Si vous avez du linoléum, il faut un cutter, je ne sais pas. Mais donc, vous partiez par où alors ? Est-ce qu'il y avait sous le parquet ?
Sous le parquet, il y avait une cave qui donnait directement dans la rue. J'ai grandi à Nantes, dans une maison.
Ouais.
Et voilà, oui, on ne m'autorisait pas à sortir. Et à un moment, j'en ai eu assez de demander. Donc avec mon frère, on a désolidarisé comme ça, trois lattes. Donc je passais comme ça.
Vous passiez dans trois lattes de parquet ?
Ouais.
Mais vous pesiez quoi, 35 kilos tout mouillé alors?
J'étais jeune.
Et alors quand les parents arrivaient, vous remettiez les lattes?
Ouais, c'est ça.
Vite.
Non, mais ça se voyait pas du tout. C'était sous mon bureau.
Ok. Et après, hop, pendant la nuit, vous reveniez?
Je fermais la porte de ma chambre à clé. C'est ce qui a un petit peu vendu la mèche.
Elle passe par les lattes de parquet, j'hallucine. Très bien. Je vais rester un peu sur l'anecdotique, parce qu'il y a un an, vous participez à une manifestation féministe, et un journaliste vous tend le micro, mais pas du tout pour ça. Vous tend le micro et vous annonce que Rachida Dati est nommée ministre de la Culture. Et alors là, la vidéo devient virale, mais quelque chose de pas possible. Je me suis demandé si ça avait été un emmerdement pour vous, ça, cette viralité de cette vidéo.
Moi, je suis pas sur les réseaux.
Ah, donc vous l'avez pas senti?
Non. On m'a dit... T'es devenu un mème, et je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc
on résume. Égérie Chanel, syndiquée CGT, actrice, chanteuse, mème. Funambule, plongeon acrobatique. Vous pouvez tout faire. Hein. C'est quand même foufou, je sais pas qu'est-ce que vous ferez prochainement. C'est quoi le prochain projet?
Non, je crois vraiment qu'avec le groupe Draguin, on va continuer à faire des choses. Ah, pour moi, c'est une expérience qui me transforme complètement.
Si Rachida Dati vous laisse faire. Parce que là, vous avez... En fait, votre mou, on raconte pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous êtes interloqué. Et ça a été viral sans doute parce que beaucoup de gens se sont reconnus dans votre réaction. Rachida Dati, elle est un peu collègue, elle est Égérie Chopard.
C'est ça.
Non ? Bah oui. Donc, bon, vous pouvez vous entendre, peut-être.
Culturellement, qu'est-ce qui se passe ?
Ouais, ça c'est l'autre question culturelle.
L'audiovisuel public, on en parle.
Alors si vous voulez, après il reste plus beaucoup de temps dans l'émission,
oui,
mais.
C'est ça.
Mais oui, vous êtes sensible à ça aussi, l'audiovisuel public, vous l'écoutez?
Bah bien sûr. Ouais. Mais non, il y a quand même une mission. Ouais. C'est la même chose dans les théâtres. C'est pas quand est-ce qu'on va arrêter. La culture, c'est pas que du divertissement. Il y a une mission publique, vraiment. Ouais. Qui, pour moi, est quelque chose d'immense. J'ai été formée au conservatoire. Enfin, je joue dans des pièces de théâtre subventionnées. Enfin, ouais. Mais il m'arrive de jouer dans le privé. Mais je viens complètement de là.
Oui, c'est grâce à ces financements, finalement, et cette culture-là, qui a été encouragée dans la région de Nantes, que vous avez passé le pas de devenir artiste, comédienne. Sans non, ça...
La culture est un endroit de résistance, justement, enfin, à la vulgarité du « tout n'est que consommation ». C'est un endroit... où l'esprit s'affûte. C'est primordial pour continuer à vivre en société. C'est pas du divertissement.
Mmh. Anna Mouglalis, vous qui aimez les sensations fortes, comme on va se quitter là, ces sensations fortes et cette transgression, vous les cherchez où aujourd'hui? Vous les cultivez comment?
Je les trouve sur scène. Quand on fait ces concerts, je me sens pas courageuse, je me sens libre. Et ça reste encore une transgression. Mais travailler qu'avec des femmes, c'est aussi une transgression. Où est-ce que je trouve ça auprès de gens que j'admire, que j'ai la chance de côtoyer, qui travaillent contre le sexisme avec les jeunes? J'ai vu la semaine dernière un rendu de travaux qui ont été faits dans les collèges du 93, en Seine-Saint-Denis, des troisièmes, bon, et certains plus petits, autour de slam, réalisation de courts-métrages, théâtre, podcast, des ateliers sur un nom. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce qu'ils font. Tout ça a été mené par l'Observatoire des violences envers les femmes du 93. C'est des propositions qui existent depuis 17 ans. Mais c'est magique, il faut que tout le monde aille voir ça. On stigmatise les jeunes de Seine-Saint-Denis. Ils sont d'une créativité et ils sont complètement en résistance contre le sexisme et les violences.
Voilà une parole bien positive pour un samedi soir.
Mais non, mais c'est
avant
vrai.
D'aller en boîte. Mais oui, ah bah
moi,
je vous crois.
Ça fait partie des. Non, parce qu'on n'a pas souvent, voilà, des choses très joyeuses à vivre ensemble en militantisme. Et ça, mais c'est merveilleux. Moi, c'est la deuxième année que j'ai la chance d'y assister. Je le souhaite à tout le monde.
Rendez-vous est pris donc. Merci beaucoup, Anna Mouglalis.
Ben, merci beaucoup.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à l'équipe transgressive parce qu'il n'y a que des meufs. Sandrine Malon à la technique, Pauline Laverdure au mixage, Ophélie Vivier chargée de programme, Anaïs Reynard à la réalisation, pour le web Suzanne Bonnereau. Et merci au service documentation de Radio France. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20 en compagnie de Patrice Lecomte.